Le rôle des émotions chez l'être humain, c'est un terrain de recherche qui intéresse depuis longtemps maintenant les professionnels des maladies mentales, les spécialistes du cerveau et ces émotions violentes qui sont capables d'engendrer chez chacun d'entre nous des débordements susceptibles parfois de brouiller les frontières entre le normal et le pathologique. Le psychiatre Philippe Jamais travaille depuis de nombreuses années sur ces comportements antiproductifs et destructeurs liés à des émotions qui nous submergent. Philippe Jamais est mon invité dans un instant pour parler donc de ces émotions qui nous rendent fous et il répond à vos messages, à vos témoignages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, la chute vertigineuse des contaminations au VIH à Londres.
Oui, une baisse de 40%, un record en un an dans les milieux gays grâce au traitement préventif. L'occasion de faire le point sur cette nouvelle méthode avec l'infectiologue Jean-Michel Molina.
Stéphanie Texier réalise cette tête au carré préparée par Hugo Struna avec Pierre de Certaine.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Philippe Jamais.
Bonjour.
Vous publiez « Quand nos émotions nous rendent fous » chez Odile Jacob. Dans cette gamme très large des émotions, il y en a donc qui sont capables de nous emmener sur des chemins incontrôlables, au point de nous faire rentrer parfois dans la folie.
Oui, enfin, ça dépend ce qu'on entend par la folie. Justement, c'est pas tant une maladie que le fait de ne plus pouvoir raisonner, prendre du recul par rapport à des émotions dont on ne se rend pas compte à quel point elles vont influencer notre capacité de penser, de juger, nos croyances.
Ouais. Ce sont des émotions très particulières ou au contraire extrêmement banales?
Je pense que nous avons tous les mêmes émotions. Simplement, la façon de les intégrer, de les traiter, leur niveau, leur intensité change d'un individu. Et la maladie, c'est quand, au fond, c'est le miroir grossissant de ce que nous sommes, nous. Et c'est en cela que d'avoir été psychiatre m'a beaucoup apporté pour mieux comprendre le rôle des émotions chez chacun d'entre nous.
Voilà, on se retrouve dans un instant pour comprendre pourquoi nous sommes parfois amenés à dérailler et parfois même à nous détruire avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission. Et à la une de la science aujourd'hui, les nouvelles infections au VIH qui diminuent fortement dans les milieux gays grâce au traitement préventif.
De nouveaux médicaments sont disponibles pour être testés et dans ce putain d'hôpital. J'en ai besoin.
Ça ne fonctionne pas comme ça, monsieur Woodruff. Où allez-vous comme ça?
Ils ont de bons médocs au Mexique. C'est mieux que ce qu'on a ici aux States. Et on peut pas les acheter aux États-Unis?
Non approuvé. Vous importez des médicaments illégaux pour les vendre?
Pas illégaux. Non approuvé, c'est tout.
Extrait du film Dallas Buyers Club pour parler aujourd'hui donc de cette baisse impressionnante des nouveaux cas de VIH dans la communauté gay londonienne. Moins 40% en un an, une diminution attribuée majoritairement au traitement préventif à base de Truvada. L'occasion pour nous de faire le point sur ce qu'on appelle la PrEP, la prophylaxie de pré-exposition. Et on en parle avec vous Jean-Michel Molina. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en ligne. Vous êtes chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et vous êtes également un des premiers à avoir introduit la PrEP en France. Alors rappelez-nous pour commencer, en quoi consiste cette nouvelle méthode de prévention remboursée dans notre pays?
Eh bien la PrEP, il s'agit de pouvoir donner des médicaments actifs contre le virus du sida qu'on utilise pour le traitement des personnes infectées, mais cette fois-ci en prévention, c'est-à-dire pour les personnes qui ne sont pas infectées par le virus du sida, mais qui de par leur comportement présente un risque élevé de contamination et donc on a démontré d'ailleurs avec une étude française financée par l'Agence nationale de recherche sur le sida qu'on pouvait avec ce traitement préventif donné avant les rapports sexuels réduire de façon très importante le risque de contamination par le virus du sida. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la France a été le premier pays en Europe à approuver ce nouveau mode de prévention.
Alors, ce qui est intéressant avec le cas londonien, c'est que le médicament, le Truvada, n'est pas remboursé, en Angleterre en tout cas, et que cette baisse de 40% est attribuée majoritairement à des commandes de médicaments sur Internet. Qu'est-ce que vous pensez de cette information?
D'abord, je crois que c'est évidemment une très bonne nouvelle, qui confirme, j'allais dire, les informations que nous avons dans d'autres pays où ce programme de prévention est mis en place. Bien entendu, il faut quand même être prudent sur ces premiers résultats qui nous viennent de 4 cliniques londoniennes. Donc je crois qu'il faut à la fois être optimiste, mais mesuré et prudent. Il ne faudrait surtout pas relâcher les efforts de prévention en général vis-à-vis du VIH. La PrEP est un nouveau moyen qui vient s'ajouter aux moyens existants. Et bien entendu, le préservatif reste un moyen extrêmement important de prévention contre le VIH. En Grande-Bretagne, à la différence de la France d'ailleurs, il faut souligner là l'engagement des autorités de santé françaises qui ont permis de rendre ce traitement accessible à tous et remboursé donc depuis le 1er janvier de l'année 2016, donc ça fait maintenant un peu plus d'un an. En Grande-Bretagne, il y a eu des discussions. À la différence de la France, vous avez le droit en Grande-Bretagne de commander sur Internet des médicaments qui ne sont pas encore autorisés en prévention. Et c'est ce qui explique qu'en Grande-Bretagne, les patients, pour l'instant, ont commandé leurs médicaments sur Internet. Mais le NHS, qui est l'organisateur du système de santé en Grande-Bretagne, a mis en place pour l'année 2017 et pour les 3 ans qui viennent, d'ailleurs un grand programme de 10 millions de livres sterling pour justement permettre à plus de 10 000 personnes en Grande-Bretagne de recevoir ce traitement gratuitement. Donc les choses sont en train de passer du commande sur Internet à la mise à disposition, comme c'est le cas en France, comme c'est le cas d'ailleurs dans d'autres pays européens, petit à petit.
Mais est-ce qu'il ne faut pas quand même voir ce résultat comme une réussite de l'automédication ?
Ce n'est pas de l'automédication, les gens sont suivis régulièrement en consultation par des médecins spécialisés, comme nous le faisons d'ailleurs en France. Il y a plus de 200 cliniques en France qui aujourd'hui délivrent comme cela ce traitement préventif aux personnes à haut risque. Et donc en Grande-Bretagne, c'est simplement du fait que ce médicament n'était pas remboursé, un certain nombre de personnes qui ne pouvaient pas payer le médicament, eh bien, les médecins londoniens, mes collègues londoniens, les dirigeaient sur des sites internet a priori sécurisé, mais il faut bien entendu être toujours extrêmement prudent de ce que l'on commande sur Internet, car quelquefois, les médicaments ne sont pas des vrais médicaments. Donc, en aucun cas, il s'agissait d'automédication. Ce serait d'ailleurs dangereux, car ces médicaments ont des effets indésirables qu'il faut monitorer. C'était plutôt accompagner ces personnes pour leur permettre d'avoir accès, comme en France, à ce traitement dont on sait qu'il est extrêmement efficace en prévention.
Alors justement, Jean-Michel Molina, on a des chiffres pour la France parce que cette baisse est extrêmement impressionnante, hein, moins 40% en un an, donc vous l'avez dit, avec toutes les précautions d'usage pour ces 4 hôpitaux londoniens. Est-ce que puisque le remboursement est possible en France, on enregistre également une baisse très importante ou pas ?
Tout ce qu'on peut dire, c'est que les dernières données dont on dispose, qui sont celles de l'année 2015, hein, dont nous avons eu les résultats récemment, ne montraient pas de diminution du nombre de contaminations globalement en France, qu'on espère aussi pouvoir mesurer, pas seulement à l'échelon de 4 cliniques, mais à l'échelon de l'ensemble du territoire français, dans les 2 ans qui viennent, 2-3 ans, une diminution nette de ce nombre de contaminations. Et c'est d'ailleurs le programme que l'ANRS va mettre en place, en particulier sur l'Île-de-France, qui est la région la plus touchée en France, pour accompagner effectivement cette prévention. Je voudrais aussi rappeler que, bien entendu, ce résultat n'est pas le résultat d'une seule intervention que représente la PrEP, quelle que soit son efficacité. C'est le résultat d'une combinaison d'interventions, renforcer l'usage du préservatif, l'utilisation de la PrEP, le traitement immédiat des personnes infectées. Donc toutes ces actions avec une augmentation, une amélioration du dépistage des personnes à risque va permettre, on l'espère, dans les années qui viennent, de voir enfin une diminution de l'épidémie dans les pays européens, en France en particulier.
Est-ce qu'il n'y a pas des risques de changement dans les pratiques ? Je pense à une baisse de l'usage du préservatif, surtout si la molécule est trouvable facilement sur Internet.
D'abord, encore une fois, sur Internet, il faut se méfier de ce que l'on achète, qui ne sont pas toujours de vrais médicaments. Donc il y a évidemment un commerce illicite sur Internet, donc il faut être prudent. Et en France, ça serait quand même un comble, alors que le médicament est disponible gratuitement, d'aller le commander sur Internet, car il est malgré tout payant sur Internet, moins coûteux que, bien entendu,
Il y a un processus d'éligibilité en France, quand même.
Pardon ?
Il y a un processus d'éligibilité pour avoir une prescription en France. Tout le monde ne peut pas aller voir son généraliste.
Il faut aller voir un médecin, et d'ailleurs c'est souhaitable, pour discuter justement avec le médecin des meilleurs moyens de prévenir l'infection, et puis aussi pour se faire dépister, car quand on est suivi en consultation de PrEP, on bénéficie d'un suivi médical tous les 3 mois, qui permet également d'être testé pour le VIH tous les 3 mois. Et on se rend compte d'ailleurs que de cette façon, on a attiré vers le dépistage des personnes à très haut risque qui étaient infectées, qui ne le savaient pas, et qui, pour bénéficier de ce moyen de prévention, se sont faites donc à nouveau dépister, ou dépister pour la première fois, se sont rendues compte qu'elles étaient infectées, et qu'on a pu à ce moment-là les prendre en charge et les traiter correctement. Donc, oui. Il est clair que l'automédication n'est pas le terme approprié, il s'agit véritablement d'un accompagnement des personnes à risque, qui permet de les accompagner d'ailleurs en termes de prévention du VIH, mais aussi des autres infections sexuellement transmissibles qui sont fréquentes chez des gens qui ont des conduites à risque. Également sur la consommation de drogue, par exemple, qui est quand même assez fréquente, des problèmes psychologiques que les gens peuvent présenter. Donc il y a véritablement une prise en charge globale de la santé sexuelle de ces personnes.
Est-ce que justement, Jean-Michel Molina, est-ce que réellement le Truvada en France est accessible à tous ? Parce que justement, pour reprendre ce que vous disiez Axel Villard il y a un instant, il y a des conditions particulières en France pour bénéficier quand même de ce médicament, ce qui pourrait d'ailleurs expliquer que la baisse des contaminations soit moins importante qu'en Angleterre, non ?
Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'elle soit moins importante, car pour l'instant, on est peut-être un peu plus prudent en France et on attend d'avoir des résultats consolidés plutôt que de faire des annonces peut-être un petit peu prématurées qui risqueraient aussi de démobiliser autour de cet enjeu qui est majeur, qui est celui d'enfin arriver à à vaincre cette épidémie en France. Donc je crois qu'il faut là mobiliser toutes les énergies autour de la prévention, qui comprend à la fois le dépistage, le traitement précoce des infections et la PrEP, avec bien entendu l'utilisation renforcée du préservatif. Évidemment, ce traitement est disponible à la suite d'une consultation médicale, ce qui est vrai de tout traitement. Les critères d'éligibilité sont assez larges. Encore une fois, ce n'est pas un traitement pour tout le monde, la PrEP. C'est un traitement pour les personnes qui sont à haut risque de contamination, avec une définition qui est assez souple et qui permet, lors d'un échange avec le médecin, de se rendre compte si oui ou non, finalement, c'est un traitement qui, pour une personne, est bénéfique, utile. Et dans ces conditions-là, le traitement est évidemment prescrit si le médecin juge que c'est une indication satisfaisante.
Allez, dernière question, très vite.
Oui, très court. Comment vous expliquez le facteur 10 qu'il y a entre le prix du Truvada en pharmacie et des génériques qu'on trouve en ligne ?
Ces génériques sont fabriqués par des pays, en particulier indiens, qui fournissent justement ces médicaments dans les pays du tiers-monde, qui n'ont pas les moyens de payer le coût des traitements et de l'innovation thérapeutique dans les pays du Nord. C'est pour ça que ces traitements sur Internet sont à des prix qui les rendent accessibles pour le traitement des personnes affectées par le VIH dans les pays du tiers-monde, pour favoriser, là encore, l'accès au traitement dans le monde entier. Alors évidemment, ces traitements en France restent plus élevés parce que leur coût est lié aux accords commerciaux entre les différents fabricants dans les pays du Nord. Les règles sont différentes dans les pays du Sud, là encore, pour faciliter l'accès au traitement dans les pays du Sud.
Merci Jean-Michel Molina, vous êtes chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Merci à vous et
Axel,
à demain.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les premiers rétrovirus apparus il y a 500 millions d'années, c'est ce qu'affirment les travaux d'une équipe de paléovirologues dans Nature Communication, reculant la précédente estimation de près de 400 millions d'années. Pour cela, les scientifiques ont développé un nouvel outil mathématique qui permet de calculer le taux de mutation chez les espèces sur de très longues périodes de temps. Les résultats sont sans appel, les premiers rétrovirus datent de l'époque où les premiers animaux sortis de l'eau ont commencé à peupler les sols. La gravité influence l'expression de nos gènes. On le savait déjà, lorsque les spationautes reviennent de leur séjour dans l'espace, ils mettent du temps pour se réadapter à la gravité terrestre, leur densité osseuse ayant fortement baissé. Pour comprendre les phénomènes sous-jacents, une équipe internationale dirigée par le japonais Akira Kudo a étudié les cellules osseuses de poissons en orbite dans la station spatiale internationale. Grâce à leurs observations, on sait maintenant que c'est l'expression des gènes liés à notre squelette qui est influencé par la gravité. Cette découverte n'est qu'un début. Les chercheurs ont déjà planifié d'autres expériences pour comprendre l'impact de la faible gravité sur nos structures osseuses. Et puis un rongeur aveugle qui se déplace comme une chauve-souris, le loir pygmé de Chine. C'est un petit rongeur quasi aveugle et qui pourtant se déplace sans problème. En l'étudiant de plus près, des scientifiques du zoo de Moscou ont remarqué que l'animal émet des ultrasons qui, en rebondissant sur les branches et feuillages aux alentours, permettent au rongeur de visualiser son environnement. Ce mécanisme appelé écholocation est similaire à celui utilisé par la chauve-souris, ce qui pousse les scientifiques à croire que ces dernières ont développé leur radar biologique bien avant de voler. Allez, ces émotions qui nous rendent fous, c'est le dossier dans un instant de La Tête au Carré. Gemini Feed avec Banks et Thierry Dupin qui signe la programmation musicale de l'émission.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et Philippe Jamen, notre invité jusqu'à 15h. Vous êtes psychiatre, vous avez dirigé pendant plus de 20 ans le service de psychiatrie de l'adolescent et du jeune adulte à l'Institut Montsouris à Paris. Et là, vous arrivez avec un nouvel ouvrage, Quand nos émotions nous rendent fous. C'est un nouveau regard sur les folies humaines qui paraît chez Odile Jacob avec Caroline Brizard, qui est journaliste à l'Obs, et les questions des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Pourquoi ce sujet-là en particulier, Philippe Jamen?
Parce qu'il me paraît essentiel d'être au carrefour, justement, de la psychiatrie et les troubles dits mentaux, qui sont surtout émotionnels, et ce qu'est un être humain. C'est-à-dire, c'est un miroir grossissant pour moi de ce que nous sommes. Et pour moi, c'est un témoignage que je veux faire après ces 50 ans passés. J'ai eu cette chance d'être situé là, dans ce service où on rencontrait des adolescents en difficulté, et d'avoir des contacts avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre eux, 50 ans, 40 ans, ouais. 30 ans après. Et de voir comment l'être humain est capable de passer d'une attitude de destructivité qui peut le conduire à mourir sans en fait le vouloir, jusqu'à une attitude du plaisir de vivre, avec une intensité d'autant plus grande qu'on est passé à côté de l'abîme. Ouais. Alors c'est ce parcours qui me paraît être au fond une leçon de philosophie, concrète, très vivante, au-delà des concepts.
Ouais, avec notre nature humaine, donc vous avez pu scruter très humaine, près voilà. Pendant ces années d'expérience.
Et que parallèlement à cette expérience si riche, si beaucoup de ces patients allaient mieux, c'est parce qu'il y a eu des progrès formidables au niveau de la neurobiologie, ouais. Et qu'il y a un progrès des sciences comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Et en 30 ans, notre conception et notre compréhension du cerveau s'est totalement métamorphosée. Donc on ne peut plus parler du psychique comme on parlait il y a encore 30 ans. C'est ça qu'il faut voir.
Bon. Et on ne peut plus parler de la folie de la même manière non plus.
Absolument, c'est-à-dire que la folie au fond n'existe pas. Elle conjurait justement les peurs humaines de perdre le contrôle, l'être humain se caractérisant justement par sa capacité à être conscient de lui-même, à se regarder, à pouvoir se juger, et la peur justement d'être débordé, mais par quoi? Eh bien justement par des émotions. Ouais. Et ces émotions, c'est ce qui fait de nous des êtres vivants, sans quoi nous serions des robots, si nous n'avions que la capacité réflexive. Ouais. C'est notre racine vivante qui peut nous tromper, justement, nous faire nous tromper sur notre capacité réflexive, sur nos jugements, parce que tous nos actes, ce qui fait encore une fois qu'on vit, c'est à base de l'émotion. L'émotion, c'est ce qui fait la vie des êtres avec un cerveau, ouais. Que ce soit les animaux, que les êtres humains, et que c'est la meilleure et la pire des choses.
Ouais. Parfois, il faut une vie entière pour le comprendre, d'ailleurs.
Hein. Oui, c'est pour ça que j'ai envie de témoigner, parce que si vous voulez, c'est tellement triste de voir qu'il y a tant de malentendus, que tant de gens, justement, parce que ils sont très émotifs, pleins de sensibilité, bien c'est ceux qui sont le plus en attente, ouais, le plus en appétit, qui vont être le plus facilement déçus. Et une fois déçus, on va voir se retourner ce qui est cette attente en une destruction. Cette destructivité, elle va de faire de la gueule jusqu'à se tuer, en passant par tous les intermédiaires, où on va se fermer vis-à-vis de l'autre, avec la même force qui nous faisait aller vers lui, parce qu'on a été déçu, parce qu'il y a eu un malentendu, et qui va nous pousser à nous détruire. Oui. Et que ça, toute la vie sociale en est imprégnée.
Donc c'est un spectre extrêmement large, on pourrait dire au fond d'une folie ordinaire, qui peut tous nous concerner à un moment de nos vies.
Oui, tout à fait, et je sais que nos siècles actuels nous en montrent pas mal. Oui, l'homme est capable de faire des folies sans être le moins du monde fou, sans avoir la moindre maladie mentale. Il n'y a pas une frontière nette. Voilà. C'est qu'à un moment donné, on est sous l'emprise d'émotions qu'on pense qu'on a choisies, alors qu'on les subit.
Oui, alors c'est ça. Moi, je trouve que vous êtes très déculpabilisant, au fond, très bienveillant d'ailleurs, dans cet ouvrage, par rapport à notre rapport à la folie et à la façon dont parfois on peut sortir des rails au point de détruire ou de nous détruire. Vous dites à quel point nous sommes quoi, finalement, pas responsables vraiment de ce qui nous arrive.
Mais voilà, la grande question, c'est que nous n'avons rien choisi de ce que nous sommes, ça il faut l'admettre.
Mais c'est pas un peu dangereux ça finalement
si, c'est pour ça qu'on en a tellement
peur. De livrer un tel message.
Ça peut être dangereux, voilà, c'est pour ça qu'on a peur. Et qu'on dit non, c'est pas nous, c'est les fous, tout ça qui font ça. Si, vous n'avez rien choisi de ce que vous êtes. Vous êtes le produit de la rencontre d'un génome que vous n'avez pas choisi, que je sache, et d'un environnement. C'est pas vous qui avez décidé de naître, c'est pas vous qui avez décidé de vos parents, de votre culture, de tout ça. Mais faites extraordinaire. Par cette capacité de vous regarder, de faire de vous un objet d'observation, ce qu'on appelle la réflexivité, capacité de dire qui c'est moi, qui suis-je moi vraiment, ça c'est propre à l'être humain, eh bien ça va faire que s'ouvre une vraie capacité de choix. Seulement ce choix, l'expérience notamment de la psychiatrie, mais pas seulement, de la vie quotidienne, il n'y a pas de frontières étanches entre les deux, nous montre que ce choix, il va massivement dépendre de nos émotions, et notamment de ces deux émotions fondamentales qui sont à la base de la vie aussi bien chez l'animal que chez nous, qui sont la confiance ou la peur. Et si vous avez peur, eh bien vous allez être obligé d'avoir une réaction de défense en rompant ce qui fait la vie, c'est-à-dire le lien, en vous repliant, en vous fermant. Et c'est ce qu'on va voir, des gens qui attendaient tellement et parce qu'ils ont été déçus, ils se protègent de leur déception en renonçant eux-mêmes à désirer quoi que ce soit. C'est cet enfermement, si vous voulez, qui est caricatural dans la psychiatrie, mais qui nous concerne tous à tout moment.
Donc nous sommes pris en permanence par ces émotions antagonistes et complémentaires, parce qu'au fond, on ne peut pas vivre sans, et les choses ne sont jamais linéaires, on passe d'un état à un autre très rapidement.
Et la vie, c'est une tension entre des émotions contraires, ces deux émotions fondamentales, et entre deux, je dirais, objectifs, ce que dans le livre, à la suite de neurobiologistes comme Damasio, j'ai appelé les valeurs de la vie, eh bien c'est que la vie, elle est faite pour la transmission. Et quand on y pense, la première cellule vivante, c'est-à-dire que maintenant on commence à comprendre le comment de la vie, rien du pourquoi, donc chacun peut garder ses croyances, ça ne met pas en cause les croyances, mais ça met en cause le comment de tout cela. Et la vie, elle est née par l'individuation. La vie, c'est la première cellule vivante. Et la première cellule vivante, comment elle se caractérise par le milieu environnant ? Eh bien, par l'échange. La vie, c'est une co-construction. C'est les circuits appétitifs, on va prendre au dehors ce qui est nécessaire. Les circuits aversifs, on va rejeter le mauvais. Toute notre vie passe là. Et là, vous voyez bien que si la membrane cellulaire, cette frontière qui fait l'individualité vivante, si elle est trop fragile, elle meurt parce qu'elle éclate. Si elle est trop rigide, elle meurt parce qu'il n'y a plus d'échange. Et toute notre vie humaine, c'est pas qu'une image, se passe entre se nourrir des autres pour développer nos potentialités et se différencier des autres, puisque nous sommes conscients de nous-mêmes, pour pouvoir se sentir un individu différent de l'autre. Oui. Et la tension, elle ne se résout jamais.
Philippe Jamais, vous avez justement été un témoin de cette époque extraordinaire dans le domaine de la génétique, par exemple. Voit vraiment à quel point aujourd'hui la compréhension a changé sur le rôle de l'environnement, précisément sur la façon dont ça agit sur nos êtres.
Tout à fait. Et qu'on voit bien que ce n'est plus... au début, quand on a eu, comme toujours, dès qu'on fait une découverte, on dit « ça y est, on a compris » et on s'accroche pour nous rassurer sur cette découverte. Donc les gènes, ça commande tout. Mais les gènes, c'est une interaction constante avec l'environnement. Et l'environnement va modifier les gènes. C'est-à-dire que plus la science avance, plus elle nous montre la complexité du vivant, qui ne se réduit en rien à un raisonnement binaire. Ça, c'est bien, ça, c'est mal.
Ça, c'est vertigineux, d'ailleurs, de faire ce constat. Hein, parce que plus on avance, et moins on comprend, d'une certaine manière.
En même temps, plus on voit la beauté du vivant et sa complexité, car la finalité, elle est là. La vie, c'est pas pour la mort, ça, c'est une invention humaine. La vie, c'est la transmission. Seulement, à partir du moment où les êtres humains ont eu conscience d'eux-mêmes, ils ont trouvé fâcheux qu'on leur demande non seulement pas notre avis pour naître, mais pas pour partir, ce qui est quand même franchement désobligeant. Alors, et la mort est venue remplir tout cela, et tout se bastringue autour de la mort chez l'être qui est propre à l'être humain. Les animaux, ils sont sensibles à la disparition, mais pour eux, c'est pas la mort. Et la vie, quand on dit la finalité de la vie, c'est la mort, non, la vie, c'est la transmission. Seulement, dans cette transmission, moi, je ne suis qu'un petit élément, d'où l'importance pour nous de nous resituer et de voir que nous sommes cet élément, il est fondamental. Et la façon dont nous regardons la vie va déterminer en grande partie ce que nous allons en faire. C'est-à-dire, cette vie, nous avons un pouvoir d'action, et selon le regard qu'on porte sur elle, eh bien, on va voir le verre à moitié plein ou à moitié vide.
Allez, Philippe Jamais, vous êtes notre invité cet après-midi sur France Inter. On va parler des adolescents, évidemment, hein, que vous connaissez bien aussi, au cœur de ces émotions. Et ce sera juste après Blondino et Bleu.
Sereine nageuse dans la gombe bleue. Quand vous aurez fini, vous m'en ferez une aussi, hein, Léon?
Mais c'est pas comme ça! Tu me dis que tu sais, puis tu sais pas! Je suis sûre que c'est pas comme ça! C'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison! On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau! Je me demande comment vous pouvez vivre ici! Tout est moche ici, tout est petit! C'est petit, c'est moche et c'est tout! Salut!
Voilà cette scène de l'effronté, évidemment. Charlotte Gainsbourg en 85, sous la caméra, devant la caméra de Claude Miller. Philippe Jamet, quand nos émotions nous rendent fous, chez Odile Jacob. Et justement, pour parler de ces émotions extrêmes qui sont capables de nous emmener parfois sur le chemin de la folie, vous ouvrez ce livre avec un chapitre consacré à l'adolescence. Est-ce qu'au fond, la crise de l'adolescence, on pourrait dire que c'est une crise des émotions?
Mais toutes les crises, c'est l'émotion, c'est la vie. Voilà, c'est ce qui nous pousse à l'émotion. C'est, au fondement de la vie, c'est l'échange, c'est l'interaction. La vie, c'est en permanence, la vie s'est créée sur la co-construction avec l'environnement. Et qu'est-ce qui mobilise cet élan, ce qu'on appelle en termes savants un peu les circuits appétitifs, qui vont vers cet appétit de l'échange? Ben c'est toute la gamme des émotions, dont les fondamentaux basiques restent la peur, la confiance. Après, il va y avoir des tas de nuances, et surtout chez l'être humain, grâce à son cerveau, il va pouvoir nuancer beaucoup les choses, mais basiquement, peur, confiance.
Mais alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce qui est en jeu, l'adolescence?
Eh bien, l'adolescence, c'est que tout d'un coup, il y a quelque chose, c'est la physiologie, c'est-à-dire que là, on devient tout d'un coup apte à procréer, qu'on ne peut plus rester au même compte, dans la même situation vis-à-vis des parents, qu'il faut conquérir le monde et des partenaires, et avec quels moyens? Parce qu'on s'aperçoit à ce moment-là, encore une fois, que tout ce qu'on a, on l'hérite des parents. On n'a pas choisi. On n'a rien choisi. C'est ça qui fait de l'adolescent un philosophe un peu. C'est qu'il se dit, mais enfin, tout ça, je l'ai hérité. C'est ma famille. Et alors là, on va bien voir que ça va être un révélateur de la qualité des liens. Et si la peur domine pour X raisons, eh ben ça va être ce qu'on vient de voir, l'effronté, où il y a en même temps, ce qu'elle ne se rend pas compte, c'est que si rien ne va dans cette maison, c'est qu'elle a au fond d'elle, elle a bien la perception de quelque chose qui pourrait aller. Mmh. Et ça, elle ne le voit plus, ce qui pourrait aller, elle ne voit que ce qui ne va pas. Mais en fait, ce qui la pousse, c'est souvent un très grand appétit à des choses fortes, qu'elle ne se sent pas pouvoir vivre avec ce qu'elle se sent être, avec l'image qu'on lui a renvoyée d'elle, notamment ses parents, son entourage, avec ses capacités relationnelles ou et autres. Et c'est tout ce malaise. C'est pour ça que l'adolescent est un miroir, là aussi, qui vient nous montrer l'obligation, comment on va faire face à un changement.
Avec cette impuissance, de l'adolescent.
Et que l'être, tout le vivant, et notamment l'être humain, il y a une chose qu'il ne supporte pas, c'est l'impuissance. Pourquoi ? Parce que c'est le danger suprême.
Oui.
C'est-à-dire qu'on est fait pour être actif. Alors comment être actif face à ce qu'on ne maîtrise pas, à tous ces changements de l'adolescent, à tout ce monde vers lequel on se sent mal préparé ? Eh bien, comment on maîtrise ? Eh bien, on peut aller vers les autres, mais là, au risque de la déception. Et tout ce qui est de la vie, c'est-à-dire l'échange, on ne le maîtrise pas parce qu'on dépend de la réponse d'autrui. Et alors, par contre, il y a une réponse qu'on a et où on est le seul maître, c'est couper le lien, c'est s'enfermer, c'est se buter, c'est refuser. Là, vous êtes le maître. Si vous passez pas l'examen, vous êtes sûr du résultat. Si vous le passez, vous dépendez forcément de l'examinateur. Si vous avez confiance en vos parents, à l'entourage, et bien il est probable que vous faites confiance en l'examinateur pour qu'il soit honnête. Mais si vous vivez dans ce climat où vous avez l'impression de ne pas être reconnu, dans ce climat de méfiance où on vous fait pas confiance, eh bien il est plus facile, moins angoissant, de se fermer.
Ouais. Comment réagir justement par rapport à des parents hein, qui souvent sont désemparés face à ces périodes critiques, face à un adolescent en particulier ?
Bien, je crois que, ce qui m'apparaît très important, c'est de comprendre le sens de ce qui se passe. Or, souvent, on ne va le voir que d'une façon binaire, c'est-à-dire si mon enfant n'est pas content, c'est que lui est mauvais ou moi je suis mauvais, mais il y a du mauvais. Non, s'il n'est pas content, c'est parce qu'il doute fondamentalement de lui, peut-être de vous, qu'il y a des choses qui vont pas, peut-être, mais qu'il a envie d'autre chose. Alors, tout le travail, c'est pas tellement d'énumérer ce qui va pas, c'est ce qu'on fait souvent, et qu'on fait peut-être un peu trop du côté médical. Et rétrospectivement, je dis qu'en même temps qu'on dit voilà ce qui va pas, mais si ça va pas, c'est par rapport à ce qui pourrait aller. Et là, travailler ensemble, non pas en s'accusant réciproquement, mais au fond, qu'est-ce qu'on voudrait ? Bien, en général, tout le monde préfère que tout le monde aille bien et qu'il s'épanouisse. Et on va s'embêter, s'engueuler, etc., parce que il fait pas ceci à l'heure, parce qu'il marche pas comme ça, parce que mes parents m'ont pas... Pour des effets secondaires, c'est ça, ce malentendu si triste, qui fait que les gens les plus sensibles vont passer leur temps à s'engueuler, alors qu'ils n'ont qu'une idée, c'est construire ensemble quelque chose qui leur plaise.
Larry nous dit sur Facebook, je vois plus de folie dans pas assez d'émotions que dans trop d'émotions. Est-ce mon côté latin qui s'exprime ? Demande-t-il.
Mais voilà, ça c'est très important, fondamental, parce que le pas assez d'émotions, dans toute mon expérience, c'est une émotion très forte. C'est-à-dire que quand la peur est très grande, eh bien les sujets ne prennent pas le risque de la rencontre, justement, d'aller vers l'empathie,
donc
vers
c'est l'émotion
le partage.
Froide.
Alors c'est ce que j'appellerais exactement. Les émotions froides dont on s'aperçoit que c'est des sortes de blindages, un peu comme le réacteur nucléaire. On les met sous des cuves de ciment, et là l'importance du ciment est proportionnelle à la force, l'énergie qui est sous-jacente. Et cette énergie, quelquefois, on la voit surgir. Et c'est le fait de sentir aussi cette envie d'aller qui fait peur et oblige à renforcer. Alors c'est toute la paranoïa qui est derrière tout ça. Vous savez, pour moi, les paranos, ceux qui s'enferment comme ça, tout est mauvais, tout, c'est des petits enfants derrière qui ont peur et qui sont en attente d'une reconnaissance qui vient d'autant moins que leur peur fait que si on les regarde pas, ils se sentent abandonnés. Mais si on leur regarde, ils disent qu'est-ce qu'elle a ma tête. Alors au bout d'un moment, effectivement, plus personne n'a envie de s'approcher. Et ils vont se justifier dans leur abandon. Et derrière, il y a un petit enfant qui attendait quoi ? D'être reconnu. Ça, j'en suis certain, après tout ce recul, c'est de voir justement comment ceux qui étaient les plus fermés vont ceux qui vont, quand ils arrivent à supporter de s'ouvrir, vont avoir une ouverture assez extraordinaire à l'autre.
Marina nous dit, j'ai 24 ans, pendant des années, je faisais des crises de pleurs, de colère, de désespoir pour des petites angoisses, des contrariétés. On m'a diagnostiqué borderline, on m'a donné un traitement qui a changé ma vie. Est-ce que vous pourriez m'éclairer sur la personnalité borderline,
justement ? Très bien, très bien. Là aussi, c'est un moyen, quoi. Pourquoi on fait des diagnostics ? C'est pour dresser des repères. C'est important. En particulier, ça a été important pour savoir quel soubassement neurobiologique il y a derrière. C'est-à-dire l'humeur, on le sait maintenant très bien avec la bipolaire, enfin on en a beaucoup parlé, bon, mais on a mis du temps, c'est que tout ça, c'est des neurotransmetteurs, hein, c'est de la chimie. Bon, mais cette chimie, plus elle est intense et mal organisée, plus elle est sensible aux variations de la relation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer le relationnel, qu'on confond souvent avec le psychique, en disant c'est psychique parce que c'est relationnel, et le biologique. La biologie, elle est mise en œuvre, dans toute la vie d'ailleurs, par l'environnement. Donc c'est le lien, la qualité de ce lien, confiance ou pas confiance, qui va entraîner des réactions neurobiologiques plus importante. Et là, elle a des troubles de l'humeur. C'est ce qu'on dit souvent maintenant dans les, en parlant des états limites, là, qui montrent justement à la fois l'importance qui est des repères diagnostiques et ne pas croire que ce sont des entités. C'est justement parce qu'il n'y a pas des troubles de l'humeur majeurs comme dans les bipolaires qu'on va dire, mais il y en a qui sont quand même un peu bipolaires, mais pas massivement. Mmh. Et on parle d'état limite. C'est important, mais il ne faut pas croire que ça existe. Il faut voir comme une entité. C'est un état, une dynamique qui, à un moment donné, est encore assez modeste, mais qui peut évoluer vers des formes plus graves. Et c'est très important de comprendre qu'il faut pas s'enfermer là-dedans. La maladie, c'est pas d'avoir des sautes de l'humeur, c'est de ne plus pouvoir s'ajuster aux autres que par ces sautes de l'humeur. La maladie, c'est l'enfermement dans un comportement qu'on n'a pas choisi, mais qui a fait des effets néfastes parce qu'il nous prive de ce à quoi on a droit, c'est-à-dire des échanges avec les autres qui nous permettraient de croire, de gagner en confiance, de croire en nous, et que plus on s'en prive, plus on se sent vulnérable, plus on se sent vulnérable, plus on s'enferme dans ses comportements. Vous voyez, c'est ça le cycle pathogène. Mais c'est pas des maladies qui existent en elles-mêmes. Voilà. C'est des conditions de vulnérabilité qui vont être aggravées par l'environnement. Et à l'adolescence, l'environnement, il fait bouger beaucoup.
Philippe Jamais, voici pour poursuivre notre discussion et entendre une colère qui monte, un extrait du film Les Nouveaux Sauvages.
Bonjour monsieur. Écoutez, j'ai eu une amende. J'ai déjà payé la fourrière, mais il y a eu une erreur. Le marquage au sol était complètement effacé.
Je peux voir ?
Oui.
Ça fait 560 pesos. Monsieur, je suis un tout petit peu remonté là, donc s'il vous plaît.
Sur le trottoir, il n'y avait aucun marquage. Je crois que vous devriez envoyer quelqu'un à l'endroit où on m'a enlevé ma voiture pour que vous constatiez que j'ai raison.
Le procès-verbal
indique que vous avez commis une infraction.
Ah.
Pour nous, ce PV est une preuve suffisante. L'amende s'élève à 560 pesos que vous êtes obligé de nous régler. Autrement, on vous comptera des majorations.
Vous me comprenez quand je parle ?
Je vous demande de rester poli. Moi, je ne fais que mon travail. Deuxièmement, vous devriez vous informer. Nul n'est censé ignorer la loi.
Appelez-moi votre supérieur hiérarchique.
Non, il n'y a aucun supérieur que je puisse appeler.
Ah bon ?
Tu te prends pour le président de la République, espèce de con.
Ça fait quoi d'être une crapule ? Vas-y, explique-moi un peu.
Sécurité, guichet 7.
T'appelles la sécurité ? Super.
Je suis en train de faire une réclamation. Je me défends en tant que citoyen. Je suis un délinquant. Tu dois appeler la sécurité.
Tu veux appeler la sécurité ? Appelle la sécurité. Appelle-la.
Un exemple, Philippe Jamais, d'un petit fait de la vie quotidienne qui peut faire basculer n'importe qui dans la folie, d'ailleurs. Hein.
Oui, enfin, la folie, c'est-à-dire tout d'un coup être entièrement habité par des émotions qui ne contrôlent pas.
Bon. Être débordé.
Débordé, voilà. Ouais. C'est le débordement.
C'est ça.
Et qui va nous faire faire quoi ? Des choses destructrices. Parce qu'on peut dire aussi, il y a des folies amoureuses, des folies d'enthousiasme, des élans, mais qui sont pas destructeurs. Si c'est pas destructeur, alors il faut que ça garde peut-être certaines limites. Dès que ça en devient destructeur. Et alors là, c'est très important parce que vous voyez que, et ça, on le sous-estime, l'importance du mimétisme. Voilà. C'est que nous sommes comme les animaux. Vous savez, moi qui viens de la campagne, c'est les jarres. Ça, c'est les jarres. Vous savez, le mari de loi, là. Le loi mâle.
Le mari
jarre,
de loi,
oui. qui sont très, très, très susceptibles, comme ça, sur leur territoire.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, et ça monte comme ça. Mais les combats politiques, ça va souvent comme ça. C'est-à-dire, dans notre vie, nous-mêmes, sans arrêt, on est censé, tout d'un coup, devant l'autre. Et là, on voit bien le malentendu. Parce qu'au départ, personne ne part en guerre. Même le gars qui était là, il applique, il veut pas, il n'a aucune envie au départ de, sauf que ça devient quelque chose de plus en plus humiliant, et c'est la guerre des territoires.
C'est ça.
Et ça, c'est la même chose que pour les animaux. Et parce qu'on l'oublie, et qu'on se prétend, qu'on parle de notre ego d'une manière, d'un narcissisme très emphatique, que je propose de remplacer le narcissisme par le territoire. Et voir que nous sommes comme pour l'animal. Nous avons les mêmes, il faut savoir que c'est les mêmes émotions qui vont se déclencher dès qu'on se sent impuissant et attaqué sur son territoire. Mais que le territoire humain, par le fait de notre conscience réflexive, il est devenu exponentiel, va faire territoire tout ce à quoi j'accorde de la valeur, qui va être ma famille, ma religion, mon club de foot, n'importe. Et on comprend pas, on fait comme si à chaque fois, chaque événement où il y a de la violence et de ces yens était quelque chose de tout à fait nouveau. Ça n'a rien de nouveau, tout ce qui se fait. Ça a été, c'était tout, la forme,
Les moyens de communication ont changé, donc ils utilisent les formes d'une époque. Mais c'est toujours le même. Je suis menacé par l'autre, je me défends, c'est mon droit. Et plus je me sens menacé, plus je deviens violent, plus je deviens violent, plus l'autre se sent menacé, et on est parti.
Et Philippe Jamais est notre invité pour nous parler de nos émotions qui nous rendent fous, ce livre qui est paru chez Odile Jacob. The Letter est la voix de Joe Cocker à l'instant.
La tête au carré sur France Inter.
Philippe Jamais, nos émotions, celles qui peuvent parfois nous rendre fous et les messages des auditeurs. Sylvie nous dit ceci, je me reconnais parfaitement dans la description faite entre la peur des émotions trop fortes, le repli comme solution à des déceptions, mais comment faire autrement? Comment réagir à ces déceptions? Comment se protéger autrement justement que par un repli? Alors, mais, Philippe Jamais, la voix de la sagesse.
Voilà. Il faut du temps, on s'en rend compte que quand il est déjà bien tard. Mais justement, se dire que c'est toujours possible et que derrière cette déception, il y a une force, c'est ça qu'il faut sentir. Si vous êtes déçu à la mesure de vos attentes, donc c'est en se disant cela et de dire c'est pas juste. Que parce qu'on n'a pas répondu, l'autre n'a pas répondu à mes attentes, moi je devienne l'acteur de mes propres déceptions. Et c'est parce qu'à un moment donné, je vois le verre plutôt à moitié vide qu'à moitié plein, c'est pas pour autant qu'il est moins plein qu'il n'était avant. Et c'est à moi. Alors si on le sait, là je crois que le savoir est un facteur de liberté. Alors, c'est pas facile, mais c'est d'autant plus possible qu'on n'est pas seul. Qu'il y en a d'autres, qu'on a confiance. Et c'est là où l'image qu'on renvoie de la société, de ce qu'est la vie, et où je m'élève un peu aussi dans ce livre contre la merdification, excusez l'expression actuelle, de la part de beaucoup aussi du monde intellectuel, qui justement, comme pris dans les déceptions, la vie est réduite à ces déceptions. Alors qu'encore une fois, c'est doublement injuste, parce que oui, on a des déceptions, mais ça n'empêche pas de garder justement, de penser que on peut les dépasser. C'est toujours possible. Et ça dépend de chacun d'entre nous. C'est pour ça que la rencontre est si fondamentale.
Ah ben, on va écouter justement l'extrait du film L'Enfer du Dimanche pour savoir si vous approuvez ce type d'accompagnement, on va dire.
Les centimètres qu'il faut gagner, ils sont partout, autour de nous. Ça, c'est vrai. Ils sont dans chaque opportunité de jeu. Ouais. À chaque minute, à chaque seconde. Dans cette équipe, on se bat pour ce centimètre. Dans cette équipe, on se sort les tripes et on les sort à ceux qui sont autour de nous pour ce centimètre. On s'agrippe du bout de nos ongles pour ce centimètre. Parce qu'on sait que quand on ajoutera tous ces centimètres, c'est ça qui fera cette putain de différence entre gagner et perdre. Entre vivre et mourir. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ?
Philippe Jamais, l'enfer du dimanche, Oliver Stone en 1989, ça c'est dans le milieu du football américain. Oui, oui. Bon, c'est souhaitable d'avoir un coach comme ça à ses côtés, il est un peu agaçant quand même celui-là, non ?
Oui, mais pourquoi pas ? Dans le jeu.
Dans le jeu,
oui. Je pense que l'avenir, moi, c'est le théâtre, c'est le jeu, c'est-à-dire la réflexivité humaine. On ne peut pas se contenter d'en parler en tant que concept.
D'où l'idée de le faire très tôt, d'ailleurs.
Le faire très tôt.
Avec les enfants.
Avec les enfants, leur apprendre. Allez, bon, là, on voit la défense du territoire. Et il faut se dire, OK, dans le jeu, pour le football ou pour le handball, bon, OK, d'accord. Ouais. Mais dans la vie,
alors avec d'autres personnes. Voilà. Pour le psychisme, c'est un petit peu différent quand même, non ?
Pour le psychisme, je ne sais pas ce que vous voulez dire par le psychisme.
Bah, en tout cas, là, on est face à un sport.
Oui, donc vous voulez dire par la relation avec des personnes.
On est motivé dans une activité.
Voilà. Après, et une activité qui elle-même a un cadre, qui médiatise. Il y a des règles, il y a du tiers. Et on n'est pas dans des relations purement affectives. C'est celle-là qui nous rendent fous, c'est quand tout d'un coup les gens qui nous attirent, qu'on peut aimer le plus, s'ils nous déçoivent, on va vouloir les détruire. Et c'est là-dessus qu'il faut se dire, c'est pas à la fois c'est pas fou, c'est compréhensible. Si on a envie de les détruire, ben c'est que l'envie elle a surgi. C'est pas nous qui l'avons décidé. Par contre, on peut décider ce qu'on en fait si on sait qu'il ne faut pas céder à la destructivité, qui est toujours un appauvrissement. Ouais. Et là, je dirais que j'en parle, il y a une morale de la vie qui devrait être, qui parcourt toutes les religions, mais qu'on peut croire, quoi, indépendamment des religions et que les religions devraient s'appliquer dans plus sereinement, c'est que la vie, elle est faite pour la transmission. Pas pour la destruction, contrairement à ce qu'on le dit.
Comment on fait, justement, quand on a une espèce d'impulsion agressive vis-à-vis d'autrui, justement, avec ce désir de détruire l'autre, précisément, même la personne qu'on aime le plus au monde. Alors, comment on transforme les choses ?
Et oui, souvent, celle qui est le plus au monde, parce qu'elle est plus investie. On déteste que des gens qui représentent quelque chose qu'on investit. S'ils nous indiffèrent, ça glisse, vous voyez, il faut savoir. Et bien, ce qui est se dire, à partir du moment où c'est destructeur, j'apprends à jouer. Je sais que il faut pas que je me prenne trop au sérieux. Il faut savoir que ça, c'est mon tempérament avec son bon côté, mais je me réfère à du tiers qui est une sorte de morale partagée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire de la vie. C'est pareil d'ailleurs pour
du tiers, c'est quoi alors du tiers dans ces cas-là?
Eh bien, c'est-à-dire un référent extérieur.
Oui, c'est ça. Oui.
C'est-à-dire quelle valeur je donne à la vie. Et c'est là qu'il faudrait l'apprendre très tôt. La vie, c'est de transmettre. Nous transmettons, voilà. Et que pour transmettre, ça passe pas par la destruction. Et que ce qu'on se transmet, c'est pas la répétition du même en plus. C'est une extraordinaire variété. Et voyez là aussi comme toute la vie. Ça est une richesse inouïe à partir de du premier être unicellulaire il y a quelques milliards d'années. On arrive avec des milliards de végétaux, des millions d'insectes, des millions d'animaux.
Et des milliards de neurones aussi d'ailleurs.
Et des milliards de neurones. On arrive à être conscient de nous-mêmes et à modifier. C'est formidable.
Philippe Jamais, Sabine sur Facebook demande comment faire, c'est justement si celui qui souffre ne fait rien pour sortir de sa souffrance psychique. Et là, on peut évoquer justement la frontière entre le normal et le pathologique aussi.
C'est-à-dire ce qu'on fait, c'est qu'on va vers lui. C'est-à-dire qu'on ne le laisse pas. On ne le lâche pas. Voilà. Ça, c'est pour mon expérience. Et si vous prenez des livres, je reprends par exemple celui qui est cité, de Nicole Desportes, dans Voyage jusqu'au bout de la vie, comment j'ai guéri mon anorexie. Eh bien, effectivement, il a fallu 15 années de suivi, 8 années d'hospitalisation successive. Et les choses, à un moment donné, eh bien, on retrouve quoi? Une émotion qui est l'envie de prendre soin de soi, parce qu'on a en face de soi quelqu'un qui a un regard qui vous donne envie de prendre soin de vous parce que vous avez une valeur à ses yeux.
Franck demande, qu'est-ce qui se passe au niveau chimique dans la tête de quelqu'un qui perd le contrôle de ses émotions, justement ?
Ah ben beaucoup de choses, ça serait un peu complexe. C'est qu'effectivement, il y a un dérèglement de la nature des émotions qui sont produites et de leur coordination et qui squeeze en particulier la partie réflexive, le cerveau. Et certains ont des vulnérabilités génétiques qui vont les rendre plus, et c'est le cas probablement de certaines maladies comme de la schizophrénie, où il y a une vulnérabilité. Mais la maladie, elle n'est pas au départ. La maladie, elle est à la fin. La maladie, c'est l'enfermement dans des comportements qui, quand ils se mettent en place, aussi négatifs soient-ils, c'est qu'ils répondent à des besoins. C'est pour ça que je parle de conduite adaptative, et en particulier de se sentir moins mal. Tous ces comportements qu'on juge pathologiques, quoi, font qu'on est moins mal. C'est pas pour embêter les autres qu'ils font ça. Ils font ça avant tout, même quand ils se mettent en colère, mais on le voit dans le film précédent où ça monte en miroir comme ça, c'est qu'à un moment donné, l'émotion monte et ils vont être submergés et ils vont avoir le comportement qui leur permet encore un peu de se contrôler. et qui est justement ces comportements dits pathologiques.
Marie demande, ce sera ma dernière question, que pensez-vous, Philippe Jamais, du diagnostic surdoué? Est-ce que ces enfants, par exemple, sont plus sensibles que les autres aux émotions?
Oui, on sait maintenant qu'il y a ce qu'on appelle surdoué, alors avec l'ambiguïté de ces termes, ça veut dire, oui, qu'ils ont des propriétés
précoces,
voilà, ouais. Il faudrait peut-être mieux dire ça, ou oui, des capacités dans certains domaines d'avoir leur ordinateur, leur cerveau, de fonctionner plus rapidement, et souvent, en même temps, parce que ça va très vite, ça peut être très bon sur le plan cognitif ou de certaines capacités ou au niveau artistique, mais au point de vue émotionnel, ça ne suit pas. Et qui peuvent avoir aussi des dérèglements avec des peurs.
Et c'est un nouveau regard sur les folies humaines, hein. Les folies humaines.
Voilà, et pas les fous.
Absolument.
Parce qu'il n'y a pas de fous.
Odile
et
Jacob.
Par contre, voilà, les folies humaines
nous font faire. Mais nos émotions peuvent nous rendre fous.
Et notre époque, on en voit beaucoup. Et compte tenu de ce qu'on a vu au siècle passé, si on se disait, attention, ne recommençons pas les mêmes bêtises. Rien ne vaut la peine de s'entretuer. Rien ne vaut la peine de s'entretuer.
Merci Philippe Jamais. Ce livre paraît chez Odile Jacob. Et la science, grand format, c'est tous les mercredis sur France 5 à 20h45 dorénavant en partenariat avec La Tête au Carré. Et nous sommes avec Caroline Béard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice des documentaires de France 5. Ce soir, Caroline, vous vous intéressez à l'une des aptitudes les plus importantes pour l'homme, c'est la capacité de voir avec ce doc, donc la vue, un grand pas pour l'évolution.
Tout à fait. Alors ce soir, on vous invite pour un voyage de plus de 500 millions d'années en arrière pour découvrir comment ce sens qu'est la vue est apparu. Donc en fait, on va suivre le travail d'enquête des scientifiques sur le terrain, dans les rocheuses canadiennes, au Japon, en Europe, pour assister à la découverte de fossiles qui datent de cette époque et comprendre comment les premières espèces ont pu voir.
Eh bien justement, Caroline Béard, on écoute un extrait de ce documentaire.
Ils se sont retrouvés face à une espèce inconnue, une créature étrange avec de nombreuses pattes. Sur la tête, on distingue une masse ronde et sombre, d'environ 3 mm de diamètre. C'est un œil de 500 millions d'années. La morphologie de cet animal est étonnante. Il possédait un long nez, semblable à la trompe d'un éléphant. Et ses yeux étaient au nombre de 5. Une trentaine d'espèces de cette période avaient des yeux.
Et c'est donc, Caroline Béard, une véritable enquête scientifique autour de la vue que vous proposez donc ce soir aux téléspectateurs de France 5, avec donc des choses assez inattendues dans ce domaine.
Des choses tout à fait inattendues et une mise en image assez exceptionnelle, avec des images de synthèse assez impressionnantes qui nous font remonter à la préhistoire pour découvrir les premiers animaux et comprendre à quel point l'acuité visuelle a été déterminante pour la survie et le développement de ces différentes espèces. Et notamment, vous apprendrez que si l'homme a la capacité de voir aujourd'hui, c'est grâce à la rencontre entre une méduse et un phytoplancton.
Allons bon.
Et l'extrait que vous avez entendu nous permet donc de découvrir un animal du petit nom de Opabania, de l'époque du Cambrien, et vous découvrirez tout plein d'autres espèces tout aussi fascinantes lors de ce rendez-vous de ce soir dans la science grand format sur France 5.
Voilà, 20h45, la vue, un grand pas pour l'évolution. Un mot, Caroline, très rapidement, parce qu'on en parlait hier dans l'émission, vous avez fait un très beau score d'audience avec ce documentaire sur les transgenres, hein.
Très belle soirée avec des témoignages extrêmement forts et percutants sur un sujet extrêmement important et un débat qui a vraiment suscité l'intérêt aussi. Donc on est ravis parce que le monde en face gagne en puissance avec des sujets extrêmement forts, citoyens.
Et il y a beaucoup de réactions effectivement sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Caroline Béard, rendez-vous
Merci
ce soir donc avec la science grand format sur France 5.